Bonjour à tous.
Bonjour.
Les conditions d'exercice de notre culte, je pense que vous l'avez tous remarqué, sont radicalement différentes de ce qu'on vient te voir dans la vidéo, n'est-ce pas? On est assis, on est là, bien au chaud. Et finalement, la probabilité que notre culte soit perturbé ou, oui, par une intrusion malveillante, elle reste très faible, même si parfois on a la police parmi nous, ce qui prouve qu'effectivement, il y a un petit risque, mais on est loin des conditions que vivent nos frères et sœurs persécutés. En fait, nos sujets de préoccupation du dimanche matin sont quand même parfois plutôt du genre « Comment est-ce que je m'habille? Qu'est-ce que je mets? Est-ce que j'ai bien pensé à programmer le four pour que lorsque je rentre, à midi et demi, le rôti soit bien cuit? Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi ?» etc., etc. Pourtant, la persécution, c'est un sujet universel pour les chrétiens de tous les lieux et de toutes les époques. Paul écrit en 2 Timothée 3 au verset 12, « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre concerné et impliqué? Alors, je vais illustrer par un exemple, ça va peut-être vous faire sourire. Imaginez que vous voulez manger une bonne omelette au lardon. Il vous faut quoi? Il vous faut des œufs et du lard. Vous avez donc besoin du cochon et de la poule. La poule est concernée car elle fournit l'œuf et tout va bien pour elle. Elle pondra d'autres œufs le lendemain. Pour le cochon, c'est pas pareil. Lui, il est impliqué. Il finira définitivement dans l'omelette car il ne va pas survivre à la découpe du quartier de lard. Alors, j'ai pris cette illustration un petit peu humoristique, mais c'est pour expliquer une réalité qui est bien vivante pour nos frères et sœurs persécutés. Et certains d'entre vous ont un petit jeton dans la main. On vient juste de vous le distribuer. Et bien, je vais vous demander, ceux qui ont le petit jeton, levez-vous à votre place, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, regardez autour de vous. Tous ceux qui sont debout, ça représente la proportion de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. En gros, Porte Ouverte estime à un chrétien sur sept qui est persécuté. Et la différence entre être concerné par la persécution, de façon générale, c'est vous tous qui êtes assis, et être impliqué dans une persécution, c'est ceux qui sont debout. Voilà, merci, vous pouvez vous rasseoir. Antoine, est-ce que tu peux mettre la diapo, s'il te plaît? Voilà. Et ici, vous avez tous les pays où il ne fait pas bon d'être chrétien. Je ne vais pas vous faire de cours de géopolitique, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais c'est assez facile d'identifier, sur les pays qui sont en rouge et puis en orange, c'est assez facile d'identifier le type de régime politique qu'il y a derrière ou les religions qui dominent ces pays concernés. Et je dis bien les religions, parce qu'en général, on pense tout de suite à l'islam, mais ce n'est pas la seule. Regardez le sous-continent indien, par exemple. Et donc, nous ici, nous sommes des privilégiés et nous sommes finalement seulement concernés par la persécution et pas à proprement parler impliqués. Alors, est-ce qu'on doit avoir mauvaise conscience de nos conditions privilégiées? Non, certainement pas. C'est une bénédiction que le Seigneur nous accorde jusqu'ici. Il nous accorde liberté et tranquillité pour l'adorer. Et c'est vrai que globalement, on n'est quand même pas trop embêtés au quotidien, nous les chrétiens de France. Du moins, pas dans notre chair, ni dans les biens que nous possédons. Alors si on n'a pas à culpabiliser de nos conditions privilégiées, on a cependant une responsabilité importante vis-à-vis des frères et sœurs persécutés. Nous devons les soutenir spirituellement d'abord, par la prière, c'est le principal moyen, et puis aussi matériellement. Et nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Nous devons nous préparer à subir la persécution un jour, peut-être, car elle pourrait arriver, doucement, mais elle pourrait arriver, et ça s'est déjà produit sur notre sol. Les guerres de religion du XVIe et du XVIIe siècle ont été une période particulièrement terrible pour notre pays et les pays voisins. Même en l'absence de toute persécution, on traverse finalement tous, durant certaines périodes de notre vie, des moments de désert ou des moments de difficulté. Et ces moments difficiles d'adversité soulèvent souvent des questions relatives à l'amour de Dieu pour nous. peut aussi parfois nous sembler que Dieu est loin et inactif et qui ne fait rien pour nous sauver, même en dehors de tout contexte de persécution. Et ces interrogations pourraient nous éloigner de lui et puis aussi un petit peu compromettre notre foi. Et l'histoire du peuple d'Israël, ainsi que le témoignage des chrétiens qui vivent sous la persécution, peuvent alors nous aider. Et ce matin, nous allons lire ensemble le chapitre 7 de 1 Samuel, qui était dans le titre de la diapositive, si tu veux bien la remettre, Antoine. Voilà. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, lisons 1 Samuel, chapitre 7. Les gens de Kiriath-Yarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Ébénézer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Alors on peut dégager de ce chapitre 3 points majeurs. D'abord, le peuple d'Israël expérimente simultanément, en même temps, des temps d'oppression et de confusion spirituelle. Deuxième chose qu'on peut relever, il est impérativement nécessaire pour le peuple de revenir à Dieu d'une manière sincère. Et puis troisièmement, il est tout aussi important de garder une trace, une marque pour se souvenir du secours accordé par l'Éternel. Alors commençons par observer les temps d'oppression et de confusion spirituelle que traversent les Israélites. Quelques mots sur le contexte. Le contexte est difficile. On est à la fin de la période des juges, et pendant tout le livre des juges, vous avez remarqué que la relation entre Dieu et son peuple, elle est en dents de scie. On a le même cycle qui se répète plusieurs fois. D'abord, Israël s'éloigne de Dieu et adopte les idoles des peuples voisins. Ensuite, cet éloignement empêche la bénédiction et la protection de Dieu. Les ennemis d'Israël peuvent alors prendre le dessus et maltraiter le peuple de Dieu. Après quoi, Dieu appelle et envoie un homme, un juge, pour ramener le peuple à lui et le délivrer de l'oppression. Et puis le cycle recommence quelques dizaines d'années plus tard. Et ce qu'on a lu ce matin, c'est en quelque sorte un énième épisode d'une histoire qui se répète depuis plusieurs centaines d'années tout au long du livre des Juges. Et la lecture du contexte montre qu'Israël avait une mauvaise compréhension de la signification de son alliance avec Dieu. Israël considérait que la présence à ses côtés de l'arche de l'alliance, le coffre sacré au-dessus duquel Dieu habitait, considérait que ça constituait en soi comme une garantie de l'action de Dieu en leur faveur lors des batailles, de sorte qu'ils auraient alors nécessairement la victoire, une espèce de porte-bonheur ou de gris-gris en quelque sorte. Au contraire, Dieu, ce qu'il attendait, c'était un réel attachement de cœur du peuple et une adhésion exclusive de toute idole. Et cette erreur de compréhension créait auprès d'Israël une attente, ils attendaient un secours, mais qui n'arrivait pas. Et le peuple était déboussolé et déçu. Si vous prenez le temps de relire chez vous le chapitre 4 de Samuel, vous verrez ce qui s'est passé juste avant ce qu'on a lu. Les Israélites se sont battus contre les Philistins, ils ont subi une défaite, ils ont perdu 4000 hommes. À ce moment-là, ils sont allés sortir l'arche de l'Alliance, ils sont retournés à la bataille, deuxième défaite, 30 000 hommes de perdus. Et puis au final, l'arche a été capturée. Et c'est après cet épisode-là qu'elle a été oubliée et puis finalement stockée pendant 20 ans parce que les Philistins avaient fini par la restituer. Et donc le peuple d'Israël, qui se réjouissait de la présence de Dieu, mais il l'honorait mal, était donc puni pour son attitude qui tenait plus de la superstition que de la vraie foi obéissante. Et on l'a lu dans le texte, l'arche de l'Alliance, qui avait été donc rendue par les Philistins, elle est restée 20 ans à Kirjath-Yarim, dans la maison d'Abinadab. Et le peuple avait ainsi mis à l'écart son culte à Dieu, car maintenant ils en avaient peur. Et ils ne savaient pas comment gérer sa présence au milieu d'eux. Et peut-être que ce qu'on vient de voir là, ça illustre une réalité spirituelle qui est toujours présente de nos jours. Peut-être qu'on a peur, à titre personnel, d'aller plus loin avec Dieu, de ce qu'il pourrait nous demander de faire. Est-ce qu'on ne trouverait pas plus facile en apparence de vivre en marge de sa présence dans nos vies, en s'appuyant sur une fausse sécurité ? Peut-être aussi qu'on laisse insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles, des pratiques que l'on suit, une sorte de rituel sous un beau vernis évangélique, alors que Jésus nous appelle à une relation vivante et de tous les jours avec lui. Ou peut-être qu'on professe le Seigneur de notre bouche, mais finalement on ne sait pas comment lui plaire par une foi obéissante. Quelques questions, chacun peut y réfléchir. L'arche a donc été négligée, et le peuple d'Israël s'est donc peu à peu éloigné de Dieu. Et encore une fois, en conséquence de son péché et de son rejet de Dieu, l'oppression des ennemis, en l'occurrence les Philistins, s'appesantit de plus en plus sur lui. Du fait de l'épreuve, le peuple revient à Dieu dans une repentance sincère. Et on voit donc que l'oppression est d'une part la conséquence de l'infidélité du peuple, mais d'autre part, elle est aussi le moyen que Dieu utilise pour faire revenir le peuple à lui. Dieu change le mal en bien, il change la malédiction en bénédiction. Et de nombreuses histoires de chrétiens persécutés témoignent de cette réalité. Dieu change le mal en bien. Alors sans que ces chrétiens n'aient nécessairement péché ou se soient éloignés de Dieu lorsque les choses vont mal, ils se sont naturellement réfugiés et rapprochés de lui. Et cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés et les persécutions leur sont finalement profitables. Dans la vidéo qu'on vient de voir, il y a le témoignage du pasteur Omar. Le pasteur Omar sert Dieu, on l'a entendu, dans le nord du Mozambique, et c'est une zone où la persécution très violente contre les croyants et malheureusement pratique courante. Et malgré les menaces, malgré les agressions et même de fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. On l'a entendu un jour, un groupe islamiste l'attaque, le jette par terre, le lit et s'apprête à le frapper violemment de la tête avec un bâton. et lui pense sa dernière heure arriver. Et c'est à ce moment-là précis, à ce moment précis, qu'il vit une expérience puissante de la présence de Dieu à ses côtés. La promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », l'est venue à la mémoire. Et il s'y accroche par la foi, comme à une ancre. Et vous avez entendu, lorsqu'il a vu des bottes, il croyait sa dernière heure venue, et miraculeusement, c'était la police qui est venue le délivrer. Un autre témoignage que vous pouvez retrouver cette fois sur le site de l'ONG Porte Ouverte, c'est le témoignage d'une sœur en Christ du Népal. Elle s'appelle Kamala. Alors, je vais utiliser plusieurs fois dans ce qui va suivre, je ferai allusion au témoignage de ce frère et de cette sœur. Donc, Kamala est née dans une famille hindoue, au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Et quand elle était encore très jeune, son père s'est converti à la suite d'une guérison miraculeuse, et elle aussi, à ce moment-là, découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, plus tard, elle a fait le choix d'épouser un homme de culture hindoue qui la détourne progressivement du Seigneur. Et donc, dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile, d'une part avec une belle famille alcoolique, un mari infidèle qui l'empêche de pratiquer sa foi. Et c'est dans cette souffrance, quand elle réalise que ce chaos découle de sa propre désobéissance, elle se repent de sa trahison à Dieu, et elle revient à sa famille chrétienne et puis à la foi. Alors, vous avez peut-être remarqué que ce dernier exemple n'est pas que l'illustration d'une persécution systématique, mais illustre ce qui malheureusement risque aussi d'arriver chez nous lorsqu'une personne chrétienne se marie avec quelqu'un qui ne l'est pas. Et c'est un sujet crucial pour notre jeunesse et plus généralement les personnes célibataires de notre Église. Ne cessons pas de prier pour eux, parce que c'est dur de renoncer aux sentiments amoureux dans ces situations. Il ne faut pas minimiser, je crois, cette souffrance. Je referme la parenthèse. Revenons au texte de 1 Samuel 7. Le deuxième aspect qu'on peut retenir ce matin, c'est la nécessité du retour sincère. Retour sincère à Dieu. Regardez le début du verset 3. Samuel dit, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôté du milieu de vous, etc. » Si c'est de tout votre cœur. Et Samuel est le prophète de Dieu et son attitude nous parle de la manière dont Dieu lui-même réagit vis-à-vis du peuple. On peut remarquer la pleine adhésion de Samuel lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère de retour. Il accueille le peuple avec joie et il lui rappelle les conditions d'un retour réel à Dieu. Au verset 5, Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah, assemblez, et je prierai l'Éternel pour vous. » Samuel ne fait pas de reproche au peuple. Comme Dieu non plus n'en fait pas lorsque nous nous tournons avec sincérité vers lui. Samuel accueille et encourage la démarche du peuple, lui montre ce que Dieu attend et participe lui-même pleinement au retour à Dieu. Regardez les versets 8 et 9. Ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Kamala, cette sœur népalaise dans la foi, lorsqu'elle revient à sa famille et lorsqu'elle revient à Dieu, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer le divorce et la persécution de son frère qui n'est pas chrétien. Mais elle trouve refuge en Dieu et le recherche de tout son cœur. Et on peut lire sur le site que d'abord hébergée provisoirement dans l'église, dans son église locale, elle trouve ensuite une chambre où elle peut vivre maintenant avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car Dieu lui a fait bon accueil. Les paroles de Samuel montrent la nécessité d'une démarche sincère. Il parle de la réalité profonde du cœur des personnes qui souhaitent revenir à Dieu. Je relis le verset 3. « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Le Seigneur ne peut pas se satisfaire de démarches formelles ou liturgiques si elles ne sont pas vécues profondément et en vérité. Entendons-nous bien, la liturgie n'est pas à rejeter, il faut de l'ordre dans le déroulé du culte. Mais le Seigneur désire d'abord que nous manifestions un élan sincère vers lui, une repentance véritable et profonde. Les faux-semblants, les gestes et paroles superficielles ne lui conviennent pas. Lorsque nous revenons à Dieu, faisons-le sans arrière-pensée et de tout notre cœur. Et le peuple d'Israël est à cet égard un exemple pour nous. Ils rejettent en effet leurs idoles, reconnaissent et confessent leurs péchés et même engagent un jeûne. Oui, ils se tournent pleinement vers Dieu en toute sincérité. Versets 4 à 6. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit : Assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpa. Ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant : Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Et la réponse à cette attitude sincère du peuple, c'est la délivrance. Dieu délivre et sauve. Les Philistins, ils ont vu le rassemblement d'Israël et ils pensent que c'est encore une occasion propice pour les vaincre. Et donc, ils se rangent en bataille contre eux. Et cette fois, nous révèle le texte, enfin, Dieu accorde une pleine délivrance à son peuple qui repousse l'ennemi à ses frontières. Et cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a accordé au peuple qui s'est repenti. Et cette victoire atteste du rétablissement d'Israël dans son alliance avec Dieu. Vous voyez, souvenez le dent de scie. Là, ils sont au nouveau sur le sommet de la dent. Pour commémorer cette victoire et en garder le souvenir, Samuel place la pierre Ebenezer, traduite par « pierre du secours ». Et il place cette pierre sur le lieu même de la défaite historique que le peuple d'Israël avait subi des années auparavant. Et des fêtes qui avaient permis l'oppression de l'ennemi. Et ça avait permis que cette oppression s'installe durant si longtemps. Et ce happy end, en quelque sorte, illustre ce que Dieu peut et veut faire également dans nos vies. Il souhaite restaurer et bénir chacun dans de nombreux domaines et nous accorder sa paix et sa joie surnaturelle. Et alors, une vie de liberté et de victoire est possible lorsqu'on l'on revient à lui, dans la sincérité et la repentance, comme le peuple d'Israël l'a expérimenté. Revenons à Kamala, la Népalaise. La suite du récit de son témoignage sur le site de Porte Ouverte nous donne un exemple de la restauration que Dieu opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale et Dieu l'a sortie de l'épreuve par le haut. On arrive maintenant au troisième aspect, le troisième enseignement de notre texte.
Gardez la trace.
La borne, gardez la trace du secours de l'Éternel. La pierre commémorative que Samuel a posée, c'est un signe de reconnaissance à Dieu. C'est aussi un rappel pour les générations futures. Et elle constitue une pierre de référence, c'est devenu un signal visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à son égard. La parole de Samuel lors de l'inauguration de cette pierre souvenir montre que son regard s'étend sur toute la période des juges. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Verset que vous avez affiché. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et cette pierre, je crois que je l'ai déjà dit, je viens de le lire, ne matérialise pas seulement l'espace, le lieu précis où l'Éternel a secouru son peuple en une occasion particulière. Cette pierre matérialise aussi la permanence dans le temps du secours de l'Éternel à chaque fois que le peuple se repent avec sincérité. Malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle dans le sens qu'il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Est-ce qu'on ne serait pas, nous, aussi, appelés à faire de temps en temps des points de marche ? On pose le bâton de marche, on s'arrête et on regarde. On regarde, on pose un regard en arrière, à froid, et reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même quand les temps étaient difficiles. Est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, on ne doit pas, nous aussi, reconnaître la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté, maintes fois démontrées dans notre propre histoire passée? Cette démarche qu'il nous faut faire de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire. Et ça nous place dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus, et dans certains cas aussi corrigés avec amour pour nous ramener sans cesse avec lui. Chapitre 12, que vous pouvez lire, de Hébreux, chapitre 12, traite de cette fidélité, cette protection, ce secours, cette correction du Seigneur. Relisez Hébreux 12. Peut-être même qu'on peut placer de manière visible, dans notre environnement de vie, chez nous, des pierres souvenirs qui témoignent des interventions de Dieu en notre faveur, de manière à ne pas oublier sa fidélité à notre égard. Et pour l'anecdote, mon père l'avait fait, il s'était remis, il a eu plusieurs cancers, il s'était remis de son premier cancer à 54 ans. Et il avait accroché un verset sur la porte, il aimait bien bricoler dans son atelier. Et il avait accroché sur la porte de son atelier le psaume 41, verset 11, c'est « Je connaîtrai que tu m'aimes si mes ennemis ne triompheront point de mal, si mes ennemis ne triompheront point de moi. » Il appelait son cancer son ennemi, comme le font d'ailleurs beaucoup de personnes atteintes par ces maladies. Alors mon père ne vit plus, mais le verset est toujours là. Et chaque fois que je vais maintenant chez ma mère, je vois ce verset. Et ça rappelle qu'effectivement, dans une période difficile de la vie de mon père et de notre famille, Dieu est intervenu. Et donc ce verset est une borne souvenir. Et ces souvenirs sont alors des témoignages auprès de notre famille, ça nous rappelle, et aussi de nos amis, quelqu'un qui rentre chez nous et qui dit « Tiens, pourquoi t'as accroché ça ?» Ça peut servir à faire connaître et honorer la fidélité de Dieu. Et je crois que ça met du concret sur notre étiquette de chrétien. Beaucoup de gens, parfois nos connaissants, savent qu'on est chrétien. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans ta vie ? Ben, tu vois, à cette occasion-là, voilà, Dieu est intervenu, et ça, c'est pour m'en souvenir. On a quelque chose de concret à présenter aux gens, et ça peut servir aussi pour le témoignage. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche et jusqu'à ce jour, et que nous pouvons dire avec Samuel « jusqu'ici l'Éternel nous a secourus », nous fortifions notre foi et la faisons gagner en maturité. Et on devient de plus en plus fort aussi pour affronter les difficultés de demain. Ayant expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu, dans le passé, au cœur même d'une épreuve. Kamala, notre sœur népalaise, écrit dans son témoignage, voici ce qu'elle écrit. « Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. » D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui et que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Pour revenir à Omar, suite à la persécution, Omar et sa femme ont été contraints de déménager. Et ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. Et la fidélité de Dieu ayant éprouvé la foi d'Omar, il décide de revenir vivre sur les lieux mêmes où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Voilà ce qu'il dit. Vous pouvez lire ça aussi sur le site de Porte Ouverte. Voilà ce que dit Omar. Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici à servir les disciples et l'Église de cette région et être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Pour terminer, revenons un peu dans notre contexte à nous. Aujourd'hui, disciples de Christ habitant en France et dans notre belle contrée. Nous ne connaissons pas de persécution systémique, on est tous d'accord. Mais dans le témoignage d'Omar, qu'on a entendu dans la vidéo, il y a une chose qui avait retenu mon attention, tout particulièrement. Il est question de ce qui s'est passé juste avant la persécution. Omar a dit ceci, la pression qui augmente sur les chrétiens, la pression augmente jusqu'au jour où finalement les extrémistes viennent attaquer. Donc en fait, il y a une période avant la persécution qui est la pression. Et je crois je reste prudent, hein, je ne veux pas aller trop loin, mais je crois qu'on tient là un signal faible de ce qui est en train de se produire chez nous. Une pression sur les chrétiens qui s'installe doucement depuis quelques années. Elle n'est pas encore physique. Le Nouveau Testament parle beaucoup de la persécution. Et j'avais cité un verset de l'apôtre Paul au début. Et le contexte politique, culturel et religieux du Nouveau Testament, vous le savez, c'est celui de l'Empire romain. Empire qui domine, à l'époque du Nouveau Testament, tout le monde méditerranéen. À tel point que les Romains appelaient d'ailleurs la mer Méditerranée la Mare Nostrum, ce qui veut dire notre mer, notre étendue d'eau. Et au IIe siècle, qui correspond à l'apogée de la puissance de l'Empire romain, vous pouviez faire tout le tour de la Méditerranée sans jamais avoir besoin de montrer votre passeport. Tout était sous domination romaine. Et les Romains étaient plutôt tolérants avec les religions des peuples soumis, y compris les Juifs. Ils exigeaient par contre une forme de piété extérieure vis-à-vis du pouvoir et des dieux du Panthéon romain. Les citoyens de l'Empire devaient jurer par le génie de l'empereur. Ça revenait un peu à reconnaître une forme de divinité à l'empereur romain. Ils devaient aussi prendre part à des cérémonies publiques au cours desquelles on procédait à des sacrifices païens. Et l'affaire des viandes sacrifiées aux idoles, qui est mentionnée dans 1 Corinthiens 8, est un peu en lien avec ça. Il y a aussi des écrits de cette époque qui mentionnent des serments civiques qui étaient exigés par les autorités à certaines occasions particulières. En gros, pour les Romains, pratique ta foi selon ta religion, mais en public, tu respectes les formes de la religion romaine. C'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai, la foi est libre, reste libre, mais elle est du domaine privé, c'est du strictement personnel. Tu peux croire ce que tu veux, pratiquer ta religion, tu peux être chrétien évangélique, mais pourvu que tu respectes la pensée dominante, la pensée qui devient la seule autorisée en société. Et ne pas vouloir respecter cette pensée autorisée ou pensée officielle, c'est aussitôt être soumis à des pressions. Je l'ai déjà dit, d'autres le disent, vous les connaissez, ces pressions, on peut quand même les résumer rapidement. Cette pression s'exerce dans le cas où vous tenez un discours jugé non progressiste, entre guillemets, avec vous prônez le respect de la vie, vous commencez à vous interroger sur l'avortement, je ne parle même pas du droit à l'avortement, le droit à mourir, vous refusez la théorie du genre et ses dérives, vous voulez valoriser le modèle familial selon l'ordre de la création, vous estimez qu'il vaudrait mieux avoir une vision mesurée de l'écologie et que vous n'adhérez pas au refus de tout ce qui est théorie Gaïa et autres, la Terre-Mère, etc. Vous osez affirmer qu'il existe une vérité unique. Voilà, vous critiquez l'évolution, vous parlez de création, etc., etc. En fait, progressivement, on cherche tout simplement à nous faire taire, pas le dire. Voilà. Et quand je dis « on », ce n'est pas seulement les pouvoirs publics qui parfois vont loin dans l'interprétation de la laïcité. Le « on », c'est l'homme occidental, c'est la société tout entière. C'est cette société qui rejette Dieu et ne veut rien entendre qui ne lui fasse pas plaisir aux oreilles. On cherche à étouffer le témoignage chrétien. La société s'accommoderait fort bien d'un christianisme dénué de toute action visible dans l'espace public. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Et de fait, on devient nécessairement un petit caillou dans la chaussure de nos concitoyens. Ça irrite, ça gêne, on veut s'en débarrasser. Je ne sais pas ce qui va se passer exactement dans l'avenir, mais la pression sur les chrétiens précède souvent la persécution. Avant d'en arriver véritablement là, j'entrevois une étape intermédiaire, une forme d'entrisme, entrisme des pouvoirs publics dans l'intimité de nos foyers et aussi dans nos salles de culte. pour contrôler si ce qui est dit et enseigné ne contrevient pas au discours officiel. Je pourrais développer, j'ai pas le temps. Jusqu'ici, nos prises de position ferme pour l'Évangile ne nous coûtent finalement pas grand-chose, ici. C'est sûr, je ne minimise pas les moqueries, les vacheries qui s'approchent parfois à une forme de persécution quand même sur le lieu de travail. Je l'ignore pas, je ne le mets pas de côté. Mais globalement, nous ne sommes pas attaqués pour nos prises de position fermes en société sur l'Évangile. Nous ne sommes pas persécutés. En comparaison de ce que subit l'Église persécutée, chez nous, ce n'est pas grand-chose. Mais ça pourrait changer. Et comme dit, j'en sais rien, à vrai dire. C'est Dieu qui est souverain dans ces choses. Mais si c'était le cas, si ça change un jour, tenons ferme. Rappelez, c'était le thème de notre week-end en septembre. Car autant les Israélites ont pu reconnaître que jusqu'ici, l'Éternel les avait secourus, autant le pasteur Omar et Kamala, cette sœur népalaise, et tant d'autres peuvent dire « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Soyez assurés, mes chers, que autant nous-mêmes, nous pourrons reconnaître dans ces circonstances que jusqu'ici, l'Éternel nous aura secourus. Et je finis. Sachons regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés. Et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées. Réjouissons-nous de son pardon toujours offert. Réjouissons-nous de sa bienveillance sans cesse démontrée. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours, apprenons à revenir sans cesse à lui dans l'humilité et la repentance, de sorte à grandir dans notre foi et dans notre intimité spirituelle avec lui. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il sera notre secours à tous encore dans l'avenir.